Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, bien chers frères, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu à cette initiative en vous trouvant ici pour cet hommage que nous avons souhaité rendre à la mémoire du maréchal Pétain. J'intitulerai, si vous le voulez bien, ces mots que je prononcerai maintenant, qui sont un sermon, qui sont peut-être aussi un petit peu un discours, la promesse de l'île Dieu. Et je voudrais, avant de prononcer à proprement parler ce sermon, vous donner trois citations qui peut-être éclaireront les propos qui suivent. La première est de Tacite. Rions des détenteurs du pouvoir qui, dans leur folie, croient possible de supprimer certains faits de la mémoire collective d'un peuple. La seconde est de Machiavel. Que l'usurpateur ne saurait affirmer solidement sa puissance, qu'il n'ait ôté la vie à tous les membres de la famille qui régnait légitimement. Et la troisième est de André Charrier. Nous étions à peine sortis de la guerre, et déjà nous savions avec certitude que nous devions nous préparer à une autre guerre et que nous serions encore en âge de la faire. Monseigneur Lefebvre s'est rendu à l'île Dieu le 13 avril 1987 et il a conclu par ces mots l'adresse qu'il a prononcée devant la tombe du maréchal Pétain. Nous vous promettons de tout faire pour que justice vous soit rendue et nous continuerons de prier les saints et les saintes de France à cette intention. 20 ans après cette promesse, 20 ans après cet hommage, il m'a paru souhaitable de revenir ici pour rappeler cette promesse de Mgr Lefebvre. À tous ceux qui le vénèrent, mais qui demeurent songeurs sur l'opportunité de son voyage ici, ou pour reprendre son mot étrange de son pèlerinage ici, je dédie ces mots. La prudence, selon saint Thomas d'Aquin, est la droite raison dans l'agir. Le docteur Angélique la regarde comme la vertu des chefs. C'est elle qui, en fonction des circonstances infiniment variées où il se trouve placé, mais toujours selon l'éclairage donné par les seuls vrais principes, leur donne de prendre les décisions justes et sages. Contrairement à l'opinion erronée que l'on en a parfois, la prudence n'est donc en rien l'art de mettre de côté des principes gênants, comme si la complexité des circonstances pouvait légitimer de s'en dispenser. En revanche, elle dicte parfois de se référer à des lois supérieures, lorsque certaines règles moindres, en raison de la gravité d'une situation par exemple, ne s'appliquent plus à celle où l'on se trouve. Elle se résout parfois, la prudence, à devoir supporter des maux lorsqu'elle s'y trouve contrainte, et que, estimant l'éradication du mal présent susceptible d'en causer un plus grand, elle préfère le tolérer et préparer l'avenir pour le déraciner ensuite avec de meilleures chances de succès. La pesée des graves raisons qui amènent le chef ou à juger devoir engager le combat contre un mal actuel ou à le supporter présentement dans l'espérance de pouvoir mieux le repousser demain, est d'abord un acte intérieur qu'il prend dans la conscience des responsabilités dont il aura à rendre compte un jour devant Dieu. Et qu'on le comprenne bien, la pratique héroïque de la vertu de prudence peut aussi bien conduire le chef à la décision d'entamer un combat difficile ou de devoir le reporter selon l'estimation qu'il aura faite de ses forces. Cependant, la fausse prudence, celle qui vient de la chair, ne verra souvent que témérité dans le choix de l'une, que lâcheté dans le choix de l'autre. Il n'empêche qu'il sera toujours plus éprouvant pour un chef, plus héroïque encore, de devoir supporter l'injure de faiblesse à l'accusation de témérité. L'enterrement de Polynice par Antigone est à la fois juste et prudent. Mais son geste, qui lui vaut aussi la mort, l'assure cependant de la sympathie instinctive de nombreux Thébains touchés par son courage. En revanche, il est bien plus difficile de comprendre qu'il peut y avoir autant de courage, sinon plus, à devoir supporter et attendre des temps meilleurs pour parler ou agir. Qu'il est difficile, lorsqu'on est plongé dans la souffrance surtout, d'admettre que la force, la forme la plus nécessaire de la bravoure des chefs ne prenne que le pâle visage de la patience. Voilà pourquoi l'âme de celui qui commande doit se trouver placée en un endroit suffisamment élevé pour être affranchi de l'opinion publique et du respect humain, libre des coteries et des partis, et ne plus considérer que son seul devoir, qui, une fois reconnu pour tel, la rende sourde à toutes les sirènes de la terre. Elle doit se mouvoir aisément au-dessus de ses intérêts personnels et même de ceux de sa famille. Accepter la condamnation que les hommes feront peut-être de sa mémoire et jusqu'au sacrifice de sa personne pour servir la cause qui lui a été confiée. De ce pouvoir, dit le maréchal, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pour lui, je suis allé jusqu'à sacrifier mon prestige, je suis demeuré à la tête d'un pays sous l'occupation. Jamais la vraie prudence n'amène le chef à devoir contredire la justice, sa sœur cardinale, mais toujours elle la sœur dans une pénétration profonde du réel et dans une application judicieuse des principes reçus d'elle. Elle demande un tel désintéressement et elle requiert une vertu si élevée qu'une Antigone est restée une perle rare dans les sociétés païennes. Il n'aura en réalité pas moins fallu que l'exemple de notre Dieu descendu sur la terre pour nous donner et cette théorie et cet exemple de l'oblation de soi-même, l'évangile et le sacrifice de la croix. La quintessence de toutes les vertus y est surabondamment présente pour que chacun vienne y puiser. C'est de cette grâce que relève au firmament de notre honneur chrétien la belle lignée des Jeannes et des Suzannes, soit par l'anticipation des effets divins de son sang, soit par ses abondantes effusions tout au long des siècles chrétiens. Est-il cependant nécessaire de se dépenser en voyage, en pèlerinage et en hommage à Yeux ou à Écône pour continuer à véhiculer et à transmettre des principes de droiture et de grandeur? Pourquoi des illustrations? Le simple exposé de la doctrine ne doit-il pas suffire à éveiller en l'homme de nobles aspirations et à en espérer l'adhésion. Lorsque les héros sont conspués par les sociétés, faut-il encore prendre le risque de s'y référer et de les proposer à nos enfants? Ou s'il faut leur en donner, pourquoi ne pas se contenter d'en exhumer de plus anciens qui ne remueront plus des passions que l'on dit apaisées par le temps? Cependant, si nous ne donnons plus d'exemple, nous arriverons bientôt à un point d'abstraction et de désincarnation, rendant l'idéal que l'on enseigne désespéré, car réputé inaccessible. Ou ne sera-t-on pas en droit de penser, s'il faut remonter plusieurs siècles pour dénicher des noms de catholiques et de français dignes d'être cités, que notre religion et notre race ont fini par devenir stériles? Qui dira, les yeux dans les yeux, à la génération suivante, enfants, suivez donc nos principes, mais ne nous demandez pas de modèles, car la grâce a cessé d'agir et la vertu d'exister. Pour rendre la vérité introuvable, il n'est que de supprimer les exemples qui l'illustrent, pour ne plus croire en une Église sainte, de seulement montrer qu'elle ne sanctifie plus. Et les cœurs n'ont-ils pas cessé d'aimer la France parce qu'ils n'ont plus connu ces grands noms de leur sang, leur signifiant comme il est beau de la servir? L'on peut continuer toujours à tout ignorer de cette tragédie, à s'étourdir et à plaisanter quand croulent les sociétés et que meurent les hommes. Le redressement des catholiques a toujours été contré par la classe de ces modérés effarouchés des idées un peu libres, des figures un peu fières. Sortir du consensus, pour ceux de cette engeance, est la plus grande des turpitudes, car leur seule conception de l'honneur n'est que de conserver le respect des autres modérés. Les catholiques modérés détestent donc très fortement les immodérés, non pas que leur bonne conscience, suffisamment cautérisée, risque d'être troublée par leur fanatisme, pour cela, ils ne sont jamais inquiets, mais parce qu'ils ont toujours peur d'être soupçonnés, que l'on croit à l'existence de quelque collusion entre eux et ces gens-là. Ils tiennent fort à ce que soient surtout nommés intégristes, ceux qui se prétendent catholiques comme eux, car ils veulent bien montrer qu'ils n'ont rien de commun avec eux. Cette messe n'a pas lieu dans l'église Dieu, mais dans cette salle. Les catholiques modérés portent une grande part de responsabilité dans l'explication de l'avilissement de notre civilisation. Ils se soutiennent si fort les uns les autres qu'il est très difficile d'échapper à la menace de modération et de stérilisation où ils voudraient tant pouvoir retenir tous les catholiques. Il leur est donc nécessaire d'arborer un visage compréhensif et indulgent en face de la situation de l'Église et de la société, même s'ils en sont parfois effrayés eux-mêmes. Ils se gardent de trop l'afficher. À trop l'avouer, ne risque-t-il pas de favoriser des idées et des solutions plus radicales et de perdre le contrôle de la nasse? Bien sûr, ils aimeraient quand même bien que ne fût pas mise en péril l'existence de leur cocon. Et ils voudraient tant qu'on les persuadât de la viabilité de leur compromis douillet entre l'Évangile et le monde. Mais le coup d'arrêt à la décadence ne sera pas donné par la tiédeur et par l'insouciance. Il faut cesser d'espérer si nous ne nous reprenons pas et si nous ne nous éloignons pas des vérités diminuées et des modèles affadis. « Je mesure, disait André Charrier à ses garçons, je mesure tout votre malheur. Vous avez absolument besoin que la vérité soit confortable et il y a une certitude non moins absolue qu'elle ne le sera jamais. Quelle génération de catholiques et de français pourrait bien nous succéder si nous ne présentons plus à l'admiration et à la vénération de ceux qui nous suivent que le spectre de l'Église et l'ombre de la France? A-t-on déjà vu que l'on embrassait des fantômes, que l'on vivait et que l'on mourait pour eux? Lève-t-on les cœurs dans l'enseignement de la honte du passé, dans le mépris des patries spirituelles et charnelles? Et il n'est pas moins nécessaire pour que vivent l'Église et la France de dire et les noms des saints du ciel et ceux des héros de notre France. Ce ne sont pas les démocrates chrétiens et les catholiques libéraux qu'on nous demande de mettre dans les placards de la pensée, mais les hommes libres. Pour nos ennemis, il importe que les figures d'un Philippe Pétain ou d'un Marcel Lefebvre soient maudites, qu'elles disparaissent et que leurs images soient interdites. Dédaignera-t-on désormais d'apprendre leurs noms à nos enfants parce que leurs poignets ont été menottés? Mais le jeu de l'intimidation a bien réussi. Ces mémoires ont été affreusement mutilées et piétinées, profanées comme cette tombe. Et il n'est pas pour rien que ce sont précisément ces deux-là, Philippe Pétain et Marcel Lefebvre, ces deux derniers grands visages politiques et religieux français, l'un qui aurait dû incarner l'espérance du retour à l'ordre naturel, l'autre à l'ordre surnaturel, qui se retrouvent aujourd'hui unis par l'opprobre et la condamnation. Par leur truchement, il resterait encore la possibilité de passer derrière le miroir, de soulever le voile et de découvrir l'immense imposture religieuse et politique de notre temps. L'on est en définitive obligé de se poser cette question. Qui croit encore à l'avenir de l'Église et à celui de la France? Qui cherche à toujours enseigner l'amour de l'une et l'amour de l'autre? De la première, le catholique se souvient peut-être encore qu'elle a les promesses de la vie éternelle pour l'empêcher de sombrer dans le désespoir. Mais son espérance diminue tant la parole de notre Seigneur semble emportée par la progression de l'apostasie silencieuse. De la seconde, il faut bien dire qu'il ne reste à peu près rien. La fierté d'être né français n'existe plus chez nos enfants, et plus personne n'a vraiment ni l'envie, ni même la pensée